Il est 8h. Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Trois lettres à la une ce matin. RIP pour référendum d'initiative partagée, oui ou non, à la privatisation d'ADP. Des députés et des sénateurs de l'opposition veulent demander leur avis aux Français. Ils sont suffisamment nombreux pour lancer ce processus inédit, déjà applaudi par les Gilets jaunes. Bibi, faucon royal israélien, Netanyahou renforce son score aux législatives. Le voilà parti pour un cinquième mandat. Il faut sauver le Brexit. Les Européens à la rescousse de Theresa May aujourd'hui lui accorderont du temps pour préparer sa sortie. Et puis à 8h20, Nicolas, l'œil de votre invité sur cette forte actualité internationale.
Il s'agit d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dans le grand entretien, donc dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
À la une également, une djihadiste au tribunal. Elle a fomenté plusieurs attentats en 2015. Puis l'année suivante à côté de Notre-Dame de Paris. La vie face à la transphobie, témoignage de personnes transgenres réunies hier à Paris. La boucherie française au patrimoine de l'UNESCO, Paris d'un jeune boucher. Et puis quand Fellini rêvait de Picasso, expo croisée à la Cinémathèque française.
France Inter.
Quand des gilets jaunes applaudissent des parlementaires, voilà qui était impensable jusqu'à hier, et cette mutinerie tout à fait constitutionnelle contre la privatisation d'ADP, 218 parlementaires à l'assaut du gouvernement grâce au RIP, le référendum d'initiative partagée, processus introduit dans la Constitution sous Nicolas Sarkozy, jamais lancé jusqu'à présent. La vente des aéroports de Paris est donc une occasion en or pour l'opposition, des communistes à la droite, des insoumis aux socialistes, avec la bénédiction de Marine Le Pen et celle des Gilets jaunes, Delphine Evenoux, réunie hier devant le Sénat.
Ce n'est pas encore le RIC, mais un RIP, référendum d'initiative partagée. Mais pour Jérôme Rodriguez, qui a laissé un œil dans l'une des manifestations du samedi des Gilets jaunes, même si la procédure n'en est qu'à son tout début, elle a déjà un parfum de victoire.
C'est grâce à nous, super, au moins on a peut-être une forme de lobbying.
Et il faut aussi savoir applaudir les élus, souvent décriés par les Gilets jaunes.
Moi je les félicite, parce que pour une fois, ils font ce pour quoi ils sont payés. Écouter, entendre et répercuter la voix du peuple au sein des institutions françaises. Eh ben bravo.
Ce n'est que la première étape du RIP, jamais utilisée depuis son introduction dans la Constitution en 2008. Il faut maintenant que la loi Pacte qui contient la privatisation d'ADP soit promulguée. Ensuite, le Conseil constitutionnel devra vérifier la conformité de la demande, puis que 4,5 millions de citoyens réclament aussi ce référendum. Pour Éric Drouet, autre figure du mouvement Gilets jaunes, il faudra être vigilant.
C'est toujours pareil, si le gouvernement est vraiment transparent sur le fait de cette vente, que la vérité soit bien dite dès le début, je pense que tous les Français, oui, pourront signer, oui.
Et même si cette consultation lancée par les parlementaires aboutit, les Gilets jaunes gardent précieusement sur leur chasuble leur revendication numéro 1, le référendum d'initiative citoyenne.
Et la majorité hier a défendu la privatisation et dénoncé le sauf qui peut des oppositions, alors que l'Assemblée doit définitivement voter le texte et toute la loi Pacte demain. En Israël, les élections législatives sont souvent serrées, mais à la fin, c'est Bibi qui gagne.
Je suis très ému que le peuple d'Israël m'ait de nouveau donné sa confiance, pour la cinquième fois, et de façon plus large. D'après la plupart des sondages, le bloc de la droite, dirigé par le Likoud, continuera à diriger l'État d'Israël dans les quatre années à venir. Je compte rapidement terminer les négociations pour former un gouvernement de droite stable. Ce sera un gouvernement de droite, mais j'ai l'intention d'être le Premier ministre de tous les citoyens d'Israël.
Benjamin Netanyahou, hier soir devant ses militants à Tel Aviv, reparti pour un cinquième mandat. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. L'affaire est donc pliée pour Netanyahou, alors qu'il est au coude à coude avec son adversaire de centre droit. Tous les deux obtiennent pour l'instant le même nombre de sièges à la Knesset.
Ce qui veut dire qu'il y a à la fois dans ces élections l'apparition d'une alternative forte en Israël et le poids écrasant de la droite nationaliste. Cette élection est une victoire personnelle pour le Premier ministre. Il a réussi son pari, il consolide son parti, le Likoud, c'est son meilleur score depuis 2003 et il dégage une majorité théorique de 5 sièges. Il peut maintenant espérer aborder les poursuites judiciaires en position de force. Benjamin Netanyahou a réussi à siphonner les voix des partis radicaux. Il a fait disparaître deux de ses adversaires qui l'embarrassaient dans son camp. Il va gouverner avec les ultra-orthodoxes, ce qui reste du centre-droit et deux formations nationalistes. Le risque maintenant, c'est d'être l'otage d'une politique de niche. Le prochain gouvernement en Israël sera encore le plus à droite de l'histoire du pays.
Inoxydable Netanyahou, il va battre le record de longévité politique en Israël, mais le paysage a changé. Étienne, il y a maintenant deux blocs et puis une myriade de petits partis loin derrière.
Et dans cet éparpillement, les ultra-orthodoxes sont les grands vainqueurs. La surface de l'extrême droite est réduite, mais sa radicalité augmente. À gauche, le parti travailliste s'effondre totalement. Le camp de la paix passe de justesse. C'est la déroute d'une idéologie affaiblie par l'apparition d'un grand parti centriste. Et c'est également l'effritement pour les partis arabes israéliens.
Étienne Monin, en direct de Jérusalem.
Et maintenant, 8h06, direction Bruxelles.
Bruxelles, où l'Europe va tenter de sauver le Brexit. Aujourd'hui, 27 chefs d'État réunis face à Theresa May qui ne s'en sort pas. À deux jours de l'échéance, la sortie théorique du Royaume-Uni, c'est vendredi. Mais la première ministre a besoin de temps pour sortir de cette marmelade politique londonienne, ce qu'elle est allée demander hier à Emmanuel Macron et Angela Merkel. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous allez suivre ce sommet extraordinaire à Bruxelles aujourd'hui. Sommet où les Européens ont décidé d'être conciliants avec Theresa May.
Oui, il y a quelques jours pourtant, quand elle a formellement renouvelé sa demande de report, plusieurs États membres, France en tête, laissaient entendre que c'était bien loin d'être gagné, mais la peur d'une sortie désordonnée l'aurait en effet emporté. Une partie des Européens sont également convaincus qu'en laissant du temps aux Britanniques, ils reviendront à la raison. On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais c'est donc bien l'idée d'un report qui est sur la table de ce sommet. Report qui devrait être d'un an pour le président du Conseil, Donald Tusk, début 2020, dit plutôt Berlin. Paris devrait suivre, mais avec ses alliés, la France veut imposer des conditions drastiques. Pas question que Londres influe par exemple sur les futures nominations aux postes clés des institutions, commission en tête. Attention aussi au prochain budget 2021-2027 qui va donner en quelque sorte la couleur de l'Europe de demain. On mettra plus d'argent par exemple dans la défense, peut-être moins dans la politique agricole commune. Garder encore plusieurs mois les Britanniques à bord du bateau, c'est leur offrir un boulevard pour qu'ils influent sur ces décisions et c'est de cela dont Paris ne veut surtout pas. Berlin s'en inquiète également. On cherchera donc sans doute ce soir à 27 un moyen pour limiter sur cette période l'influence britannique, malgré leur probable présence au sein du futur Parlement de Strasbourg. Une fois de plus, les Européens vont devoir faire preuve de créativité.
Angélique Bouin, correspondante de France Inter à Bruxelles. La rue algérienne contre son président par intérim. Maintenant, hier, des milliers d'étudiants ont dit leur rejet d'Abdelkader Ben Salah, nommé comme le veut la Constitution pour remplacer Abdelaziz Bouteflika. Dans la soirée, il s'est engagé à organiser des élections transparentes et régulières sous 90 jours, des élections que le directeur de l'agence France-Presse à Alger ne pourra pas couvrir. Il vient d'être expulsé. Décision inacceptable pour la présidence de l'AFP. Et puis toujours à l'étranger, les Soudanais comme les Algériens se battent contre un président au pouvoir depuis trop longtemps, Omar el-Béchir, en place depuis 1989, lâché par la police, qui réclame un transfert pacifique du pouvoir comme Washington et Londres, alors que des milliers de manifestants sont toujours massés devant le QG de l'armée à Khartoum.
Il est 8h09, Florence, une femme au tribunal aujourd'hui, accusée d'avoir voulu commettre des attentats.
Elle s'appelle Inès Madani, elle comparaît au tribunal pour des projets d'attentats. Arrêtée en 2016 pour avoir tenté de faire exploser une voiture avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris. Mais ce sont ses tout premiers projets qui seront jugés à partir de cet après-midi, avec ses complices présumés, filmés à l'époque par un journaliste infiltré, Sophie Parmentier.
Le journaliste masqué avait appelé son reportage « Les soldats d'Allah » du nom du groupe Telegram sur lequel Inès Madani avait rencontré les deux jeunes hommes qui seront jugés avec elle. Dans ce groupe crypté, Inès Madani s'était ainsi liée avec Oussama, qui avait choisi ce prénom en hommage à Ben Laden. Elle se cachait derrière un nom d'homme, Abou Souleyman. Derrière leur pseudo, sans jamais se rencontrer, ces jeunes radicalisés ont imaginé d'effrayants projets d'attentat. Inès Madani les a détaillés d'une écriture enfantine dans deux lettres lettres glaçantes qui seront au cœur de ce procès. La première lettre date du 19 novembre 2015, 6 jours après les attentats du 13. Inès Madani suggère une attaque suicide. « On peut viser un endroit où il y a beaucoup de monde », écrit-elle, « boîte de nuit, cabaret fréquenté par des couffards, des mécréants. Il faudrait un ou deux kamikazes à l'intérieur. On tire jusqu'à la mort, mes frères. On peut aussi taper partout. Faut qu'on ait des ceintures d'explosifs et des calaches », dit-elle. Un mois plus tard, les policiers antiterroristes commencent leurs interpellations sans retrouver d'armes. Inès Madani et ses coprévenus risquent aujourd'hui 10 ans de prison.
Deux fausses victimes des attentats du 13 novembre, condamnées à 1 an de prison ferme hier. Un gérant de pizzeria à son restaurant Casa Nostra avait été visé par les terroristes, mais il n'y était pas ce soir-là. L'autre est une vraie victime des attentats de 95, mais pas de 2015. Tous les deux ont essayé d'escroquer le fonds d'indemnisation des victimes. C'est un montant record pour un scandale sanitaire en France. Les laboratoires Servier ont déjà versé 116 millions d'euros aux victimes du Mediator. 3 600 personnes qui ont touché pour les unes quelques milliers d'euros, jusqu'à 1 million pour d'autres, alors qu'un grand procès pénal aura lieu au mois de septembre. Soutenir Julia, transgenre agressée il y a 10 jours à Paris, et dire les discriminations et le harcèlement qu'elles subissent. Des transgenres se sont rassemblés hier soir place de la République à Paris, 400 personnes qui attendent un autre regard sur leurs conditions. Reportage signé Mathilde Dehimi.
Alicia s'amuse des regards. 60 ans, 1m90, une jupe et des talons. Elle répond volontiers aux interrogations des passants, soucieuses de faire changer la société.
À l'âge de 5 ans, ma dernière fille me disait « Papa, t'es plus jolie en dame ». Mais à 8-9 ans, elle me dit « Papa, tu te mets pas en dame parce que tu vas me mettre la honte ». La pression sociale, elle va surtout, y compris sur les enfants. Donc demain, quand je vais voir ma pupus, je vais me mettre en mode papa.
Une tenue plus masculine qu'elle garde dans son sac si besoin. Alicia, comme Vanessa, n'a pas eu de problème avec ses collègues. Ce sont surtout les difficultés administratives qui pèsent, raconte Vanessa, qui vient d'entamer sa transition.
Il y a encore certains tribunaux qui traînent des pieds, qui réclament encore ou une intervention chirurgicale ou alors un traitement hormonal qui n'est plus obligatoire vis-à-vis de la loi.
Une méconnaissance ou un rejet qui ont des conséquences bien plus vastes que les tracasseries administratives, explique Chloé, l'une des premières à mener un long combat judiciaire.
Moi aussi, ça m'est arrivé de me retrouver face à un bonhomme qui baisse sa braguette pour me montrer son sexe. C'est odieux. Et ce genre de comportement est complètement légitimé par le comportement de l'État à l'égard des personnes transgenres.
Il faut commencer par changer de vocabulaire, dit-elle. Nous sommes transgenres, pas transsexuels. Une question d'identité et non de sexe.
Hier, un homme soupçonné d'avoir participé à l'agression de Julia a de nouveau été interpellé. En Ligue des Champions, Liverpool a fait un premier pas vers les demi-finales en s'imposant 2-0 à domicile contre Porto hier soir en quart de finale aller. Il y avait deux autres clubs anglais face à face. Dans le deuxième match de la soirée, c'est Tottenham qui l'a emporté 1-0 sur Manchester. Il a eu de la chance, beaucoup de chance. Un skieur a dévissé de 300 mètres hier dans le massif du Mont Blanc. Une chute qui aurait pu le tuer sur cette pente extrêmement raide du col des Cristaux. Il s'en sort avec quelques blessures légères, nous révèle ce matin France Bleu, Pays de Savoie.
Il est 8h13 et si la découpe de viande à la française, Florence, était un art reconnu par l'UNESCO.
C'est le projet d'un jeune boucher de 20 ans en campagne pour faire reconnaître cette spécificité française du travail de la viande. Il s'appelle Victor Dumas, voici ses arguments.
J'ai vu toute la technique française et l'art dans la découpe qui se démarquait par rapport aux autres pays. On va dire qu'en France, on est un peu chirurgien de la viande, parce que sur une demi-bête, on va pouvoir détailler jusqu'à 40 morceaux, pendant que dans les autres pays, ils vont en détailler 5 ou 6. Des pièces comme le merlan, les araignées, ça c'est tout des muscles qu'on va pas trouver dans les autres pays, mais qu'on trouve en France. Le métier de boucher est souvent sali par toutes ces images de vegan, tout ça, mais je pense que ce projet, c'est important pour montrer la belle image du métier, redonner envie à des jeunes, et puis montrer aussi que le métier de boucher, c'est pas juste couper un morceau de viande, c'est bien plus que ça, c'est aller chez son éleveur, choisir une bête de qualité, la travailler au mieux, et puis ensuite donner le conseil aux clients. C'est un métier très complet, c'est ce qui est très intéressant dans le métier de boucher.
Victor Dumas, jeune boucher qui adore son métier, au micro de Solène Larquier. Quand l'art de la boucherie précède celui de Picasso et de Fellini, on n'était pas si loin avec Guernica, Nicolas. Fellini, immense cinéaste italien qui n'a cessé d'admirer le maître espagnol comme un chemin parallèle entre les deux hommes. Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est une percutante exposition de la Cinémathèque française. Jacqueline Petrose.
C'est si évident. Fellini a un talisman, Picasso. Le peintre apparaît trois fois dans l'incroyable livre des rêves du cinéaste, plein d'onirisme et de fantasmes, pour ensuite résonner dans ses œuvres. La Dolce Vita, 8,5, le Satyricon, la Cité des Femmes, Casanova, dessins et extraits de films répondent à près de 50 œuvres de Picasso. Au cœur de leur création, les mythes et les femmes.
Marcello, where are you?
Audrey Norcia, commissaire de l'exposition.
C'est l'épicentre. On pourrait dire qu'elle synthétise l'œuvre d'art. Fellini, comme Picasso, y puise des formes, des émotions, des ressentis, des peurs, des angoisses. Elle est là pour exprimer tout ce que l'homme artiste, le créateur, peut trouver dans la femme et dans toutes ses composantes.
Et puis au centre, un chapiteau de cirque idéalisé, autre passion commune.
Il y a de très belles gravures. Des années 68-71, on y voit des écuyères, des acrobates, des clowns, toute cette dimension festive qu'on connaît peut-être moins chez Picasso. Et le cirque est fondamental chez Fellini. Et il le dit, s'il n'avait pas été réalisateur, peut-être serait-il devenu un grand directeur de cirque.
Envoûté par les images, les musiques, les dessins, on vogue dans cette exposition où deux génies s'écoutent au-delà du temps et avec jubilation, on redécouvre l'œuvre fellinienne entre rêve et désir.
Quand Fellini rêvait de Picasso, exposition à la Cinémathèque française jusqu'au 28 juillet.
Merci Florence Paracuelos.